Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, alors que votre navire, la Marée Rouge, vous conduit jusqu'aux îles de Fer, hein, un voyage qui totalisera de 10 à 11 jours, votre route a croisé la Veuve Blanche, un autre bateau sous le commandement du capitaine fermier Ted Kenning. Le navire semble déserté et un curieux brouillard s'accroche à lui. Alors que le capitaine John Timball ordonne à quelques hommes d'aborder le navire avec la chaloupe, Mali, le loin voyant enchaîné au mât principal, prophétise que si Solomon et ses compagnons ne grimpent pas à bord de la Veuve Blanche, tout l'équipage de la Marée Rouge périra. Ayant foi aux visions de Mali et faisant la sourde oreille aux protestations du prêtre Dieu Noyé, Joe, le capitaine a envoyé nos héros sur la chaloupe avec les harponneurs Carl et Sage, une femme. Une fois à bord, le brouillard semble s'animer de vie, des tentacules virevoltants et grouillants comme autant de serpents de brume géants, de plus en plus agressifs, jusqu'au moment où deux d'entre eux vont attaquer Carl, lui agrippant la taille et une jambe, soutirant au maître harponneur un cri de douleur qui déchire le silence oppressant qui entourait les héros. De ses cimetières, Kenan a tenté de trancher un tentacule, mais aussitôt le brouillard et les veines noires zébrant leur intérieur se sont formés et ressoudés. Sous les yeux horrifiés de Solomon, Sage et Ygritte, la peau de Carl s'est effritée en lambeaux, aussi léger que de la cendre, pour flotter jusqu'aux tentacules soudés à lui. Rapidement, Les deux serpents de brume prirent une forme humanoïde, peau laiteuse et translucide, à travers laquelle toujours ce réseau de veines noires, palpitant et pulsant de vie. Un cauchemar vivant, où ils virent la chair et les muscles de Karl donner chair aux deux abominations, se nourrissant de lui. L'un à l'apparence masculine et l'autre aux formes féminines. Avez-vous des questions par rapport à ce qui s'est passé dernièrement?
Y est-tu trop tard pour faire demi-tour?
Ouais. avant de reprendre, je suis à peu près certain que votre état émotionnel a changé par rapport au moment où vous avez mis la première fois le pied sur ce navire. Je vous inviterai à prendre un état émotionnel. Vous choisissez lequel par rapport à ce que vous avez été témoin. Je vous invite aussi à me dire ce que vous avez choisi.
Pour ce qui est de Solomon, je pense que ça va être un stress, là. Stressé.
Très bien. Ygritte, elle?
Ça va être effrayée, en fait. Déjà qu'elle n'est pas à l'aise sur l'eau, là, qu'elle voit une espèce de bébite. Elle s'ennuie encore plus de chez elle.
Pour qu'est-ce qui est de Kenan, lui qui s'est acharné sur un tentacule, là, c'est quel sentiment est en train de naître en lui?
Kenan est complètement perdu, là.
Perdu.
Il tape sur les tentacules, mais ça fait rien, ça disparaît. Il est déjà pas dans son élément naturel, là. Il a pas l'habitude du combat, donc... c'est un mélange entre perdu et paniqué en même temps.
Très bien. J'avais parlé d'une possible simplification du mécanisme au niveau des états émotionnels. Et on va aller dans ce sens-là. Hein? On ne tirera plus un second jet au risque de le voir rater une seconde fois. Donc, il suffit donc de brûler un état émotionnel pour passer d'un jet médiocre à une réussite partielle. Mais comme l'action se fait sur le coup d'une forte émotion, mais j'aimerais aussi voir un léger débordement dans cette demi-réussite-là. Là, je vous aide, là, tu sais, ça devient une réussite partielle automatique, là. Tu sais, vous lamentez que Babel, c'est dur, là. Je viens de faire un grand pas vers un système tout léger, tout mielleux.
Merci.
Ça va bien. Là, je suis en train de vous mettre ça beau avant la tempête.
Ouais, c'est ça.
C'est parce qu'il y a un truc qui nous attend encore plus dark, c'est ça?
Hommes et femmes de peu de foi. Accrochez-vous, on commence.
Chapitre 1. Tel père, tel fils.
Les yeux verts du pauvre Karl, hein, qui ont passé au blanc, et son corps musclé, qui n'est plus qu'un souvenir, hein, maintenant il est frêle et maigre. Kenan et Sage, ben, vous avez attaqué tous les deux des tentacules qui s'enroulaient autour de Karl, et vous êtes restés interdits en voyant que ça ne produisait aucun effet. Et Grit Solomon, ben, vous êtes toujours agrippé, chacun à un bras de Karl, mais celui de gauche s'arrache et reste dans les mains d'Ygritte, la faisant tomber sur les fesses et sur le dos, au sol. Je vous rappelle qu'Ygritte a fait un fiasco, hein, à son dernier jet. Aussitôt, tu sens les tentacules froids et mortels frôler les vêtements le long de tes cuisses.
Dans le fond, c'est les...
T'as un bras,
qui viennent me chercher aussi.
Oui, il y en a plein.
Pas, hein. Du bras, là.
Non, je vous rappelle que on voit le brouillard s'agripper aux mâts, aux voiles, aux bastingages, chagrouillés. On voit dans le brouillard des choses bouger qui ressemblent à des serpents. Et alors que le bras de Karl te reste entre les mains et que tu tombes fesses et dos au sol, et là tu sens tout de suite le sol commencer à comme bouger, et tu sens ces tentacules se frotter à toi.
Je pense que dans l'état de la situation et avec tout ce que Ygritte voit et que c'est comme non, là, ça fait pas, là. Je pense qu'elle va sortir en fait ses griffes.
Oh! Ah, la première fois!
Ouais.
C'est toujours
parce que là, elle est comme un peu, tu sais, effrayée paniquée, là, puis, tu sais, je veux dire, elle est probablement pas venue hyper armée sur ce bateau-là avec, tu sais, en se disant, ben, il va rien se passer, finalement.
Ouais, puis en étant un invité déferné, on veut pas les rendre nerveux, donc, effectivement, sans doute qu'au niveau des armes, t'es restée discrète, t'as laissé ça dans ton baluchon, dans ton bagage. Ouais. Et donc, écoute, je te laisse nous décrire ça. Est-ce qu'il y a une douleur, tu sais, c'est une douleur, écoute, ça te fera pas tu perds pas de points de santé, mais il doit y avoir un peu de douleur lorsque tes griffes sortent au niveau de... Ça sort au bout de tes doigts, ça sort sur le dessus de ta main à la Wolverine? Comment ça sort?
Oui, ça sort vraiment à la Wolverine.
Très bien. C'est ce genre de griffes comme des serres d'aigle, hein, c'est tranchant comme pas possible.
Oui. En fait, c'est très... l'image que je vois, c'est vraiment Wolverine avant qu'il se fasse mettre de l'adamantium, en fait, qui était plus des os qui sortaient de ses poings.
C'est jointure.
Ici, Ygritte, elle a la même chose, en fait.
Très bien.
Qui lui sort des mains. Puis, c'est sûr, c'est comme le fait des sortir. On va voir, en fait, une Ygritte un peu paniquée au sol, voir les tentacules. Vraiment pas à l'aise d'être sur le bateau, de voir que ce genre de créature existe. Va, d'instinct, en fait, se raidir, serrer les poings, et ça va sortir en va lâcher un cri de « Ah! » Puis ça va... ses griffes vont sortir, puis elle va immédiatement se mettre à frapper les espèces de tentacules un peu avec du dégoût, là. T'sais, c'est sûr, c'est une genre de femme forte. C'est pas le genre de femme qui fait une bibitte. Mais là, cette affaire-là, rampant, qu'elle a jamais vue, c'est comme elle trouve ça dégueulasse, là. Ouais. Elle n'en veut pas sur elle.
Puis selon ta description, même que tes griffes, t'es sorti comme par instinct, c'est même pas réfléchi.
Ouais.
Là, ça.
Oui, oui, oui. Elle sort. A vraiment, en fait, j'ai besoin de me défendre contre cette chose que je veux pas que ça me touche.
Très bien. Tu vas me faire un jet. Un premier jet, où on va voir un peu comment va se débrouiller Ygritte à taillader. Ces tentacules de brume tout autour de toi, veinés de noir. Tu as combien lorsque tu utilises... Tu l'utilises avec art martial, hein?
Ouais, en berserker.
Mm-hmm. Et je pense qu'on est bien parti pour du berserker. Tu vas me faire ton jet à 70. Oh!
90.
Écoute, si la fiction te frappe, tu es débordé. OK? Ce que j'aimerais que tu nous montres, là, c'est vraiment une Ygritte qui est débordée par le nombre de tentacules et leur agressivité, ou que tu fournis pas à les taillader. Tu réussis à les taillader, tu vois la brume se déformer, tu réussis à trancher ces veines noires-là, mais ça se ressoude et on dirait que ça se multiplie.
Si je pense qu'à ce moment-là, elle va se sentir un peu submergée, elle va se lever, puis elle va partir en courant dans la direction opposée, je pense.
Direction opposée, tu retournes au grappin?
Ouais, le plus loin possible de ces affaires-là. Là.
Très bien. Tu vas voir que ta course ne sera pas aussi effrénée que tu le désirerais, dans le sens que tu es submergée, elle t'entoure. Donc, t'as pas vraiment un couloir qui mène jusqu'au bastingage. Tu es vraiment débordé. De par ton jet, t'es vraiment encerclé. Donc oui, tu commences à faire quelques pas, peut-être de reculons, hein, t'éloigner de qu'est-ce qui reste de cet épouvantail qu'était Carl. Mais il y en a partout. On voit Ygritte tourner la tête de gauche et à droite, entendre des sons chou, 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 qui passent en arrière d'elle. T'es nerveuse, tu taillades un peu partout. Même que tes premiers coups, t'en es peut-être même dangereuse pour Solomon. La caméra se tourne vers toi, Solomon. T'as vu le bras s'arracher, le bras gauche de Carl s'arracher, et tu as vu disparaître Ygritte dans la brume. Toi, tu tiens toujours le bras de Carl, mais on voit là, de plus en plus ces silhouettes se former, une qui est à tes pieds, hein, cette silhouette plus féminine qui s'accroche à la jambe de Carl, et on voit cette transformation qui continue. Je vais dévoiler une image. Ça commence de plus en plus à ressembler à ceci. Plus en plus humain. Même chose pour la silhouette qui est plus masculine, qui tient Carl par derrière, là, à bras de corps, là, autour de la taille. Que fais-tu, Solomon?
Devant l'urgence de la situation, hein, cette brume intangible-là, qui est un phénomène que Solomon n'a jamais vu de sa vie, mais qui semble être empreint de magie, Solomon est stressé. Il voit que ses compagnons sont en danger mortel, imminent, et que n'importe quelle arme physique risque d'être inutile. Tout simplement, Solomon va se concentrer sur la ténèbre et prononcer ces mots en faisant le grand jeu. Que le feu de mes ancêtres et leur lumière me viennent en aide. Et à ce moment-là, Solomon tout simplement va venir toucher le corps de Carl, hein, qui je pense j'y tiens encore un bras, si je comprends bien.
Oui, effectivement, puis, si tu veux faire le grand jeu, j'imagine qu'il va falloir que tu lâches au moins une main pour faire les mouvements d'une main. Ouais.
Exactement, et je viens redéposer ma main sur lui, et tout simplement, un feu, pour qu'un feu intense prenne sur son corps, mais surtout un feu vif et luminescent afin de repousser la brume qu'il y a tout autour de nous.
Très bien. Écoute, je vais prendre, si tu es d'accord avec ça, le grand jeu, on va pas le prendre pour diminuer le coût, on va le prendre pour augmenter la rapidité de l'effet.
D'accord.
Fait que ça va être un point de focus par rapport à la magie pour embraser Carl et tu... Et en le touchant, ben on te voit aussi te concentrer. On voit des perles de sueur hein, sur ton front alors que tu te concentres et pour justement là accélérer le processus là de pour que le feu consume plus vite tout ce qui touche.
Yes.
Kenan, toi tu es tout près de Sage, l'harponneuse, et à la vue d'Ygritte, qui a basculé vers l'arrière, tombant sur le sol tout en arrachant le bras de Carl, tu as vu la jeune pirate pousser un cri d'effroi. Puis, son harpon en main, elle s'élance vers le tentacule qui s'est enroulé autour de la taille de Carl et qui se transforme progressivement en une silhouette humaine, masculine. Elle se lance sur cette chose alors que les flammes créées par Solomon enveloppe désormais Carl. Kenan, que fais-tu?
Moi, je suis toujours... Moi, je suis toujours avec mes deux sabres, là, en train de taper dans le vide. Est-ce que je me rends compte de la situation autour de moi?
Oui, t'as pu entendre peut-être gémir Ygritte, là, autant lorsqu'elle s'est réceptionnée au sol que lorsque... elle a sorti ses griffes. T'as peut-être pas vu les griffes, hein, parce que tu l'as vu partir dans le brouillard un peu. Mais déjà, tu vois Carl, qu'est-ce qui en reste. Là, tu vois déjà un éclat de lumière et tu comprends qu'il est en train de s'embraser.
J'ai que des cimetières tout pourris, quoi. Face à ça, ça... Ouais, ça, elle court droit sur le... Écoute, est-ce qu'elle a des chances de le toucher ou elle est vraiment en train de...
C'est dur à évaluer. Faut qu'elle fasse environ 3-4 enjambées. Ça va se passer en même temps que ton action, tout simplement, Kenan.
Ok. Parce que est-ce qu'à ce moment-là, je peux faire une action pour l'aider, elle?
Qu'est-ce que tu voudrais faire pour l'aider? À part taillader aussi cette silhouette-là?
Ouais, c'est ça. J'aimerais peut-être bloquer la silhouette, la figer dans le temps pour qu'elle ait toutes ses chances de le toucher.
Écoute, je pense qu'on peut essayer.
Ok. Donc ça serait un point de focus pour une personne, non? C'est ça?
C'est, si tu le fais à distance, hein, t'es pas... Donc c'est déjà deux points. Je peux pas te permettre le grand jeu. Je pense que là, il y a juste le geste que tu vas sortir, tendre la main pour être plus rapide, pour aider Sage. Donc on va vraiment y aller avec un geste de la main, si tu veux bien, pour que tu sois capable de le faire avant qu'elle soit sur sa cible. Et ça va être en dualité contre le pouvoir de mouvement de cette créature-là. Autrement dit, il y a quand même un jet de résistance. Tu as combien au niveau de la ténèbre là, dans le sujet temps?
Si c'est contrôler le temps c'est 2. Contrôler c'est 1.
Et tu... Donc, on est à 3 et t'as combien en mental?
3.
Donc, on serait à 6. Ça se fait à 50%.
Dur.
Ouais, c'est très dur. Et c'est une réussite avec un beau 9. Dis-moi qu'est-ce qui arrive parce que ça va vraiment, mais vraiment aider Sage.
Ben c'est vraiment dans l'action là. Kenan est complètement perdu là, comme on l'a dit. Et puis il va voir son acolyte Sage partir comme ça en trombe à la personne. Et puis il va même pas réfléchir. Il va juste penser à l'aider, à essayer de bloquer le personnage. Il va tendre sa main vers lui, avec toujours en tenant le sabre, en pointant le sabre vers lui. Et il va juste avoir le temps de dire. Arrête.
Sage a attaqué une cible qui s'occupe pas vraiment d'elle. Donc, elle visait vraiment au niveau de la tête. Et toi, en paralysant en somme, en gelant cet homme dans le temps, fais en sorte qu'on va voir la lance passer bas en bas de la tête de cette silhouette. Et je vous dévoile un peu... une autre image juste à côté où en était rendue la transformation de cette chose qui est de plus en plus humaine, de plus en plus tangible.
Bon, ça va vite.
Oui, ça va quand même très très vite. Et à ce moment-là, alors qu'on voit la lance percer le crâne de la créature, la porte de la cabine du capitaine, celle du château, explose en 1000 morceaux. Il y a un souffle d'écharde et d'éclisses de bois qui va être craché vers vous. Chers héros, je vous demanderai à tous et à chacun de faire un jet de anticiper une attaque à distance. Alors que vous entendez cette détonation, un genre de... Mais c'est pas une explosion de poudre, hein? C'est comme si un souffle, le souffle d'un géant avait fait éclater la porte. Et là, vous entendez ça et... vous avez juste le temps de peut-être vous coucher au sol.
J'ai 6.
OK, très bien. T'as 6, tu vas me faire ton jet à 60. Je vous dis...
J'ai...
Oui. 6 également?
5.
5 à 50%. Tu as combien, Kenan?
6, pareil.
60%.
Ah, j'ai 1.
Oh yeah! Et...
91.
Kenan, 84. Et on a vu Ygritte faire une réussite critique. Andrian, si tu acceptes la proposition... Moi, je verrais très bien Ygritte se pencher au sol et dans le souffle hein, où on va voir aussi le souffle puis les éclats viennent frapper la statue malingue et rachitique qui est devenue le solide Karl, et son corps là, disparaît dans un nuage de cendres, de flammes, qui est projeté au loin là, dans la direction du souffle. Et on voit les tentacules autour d'Ygritte alors que tu t'es plaqué sur le plancher. On voit ces tentacules là, se faire là, percer de part en part là, par des flammes, des morceaux de bois en flammes, des éclisses et tout ça. Donc, le champ autour de toi, Ygritte, là, est comme plus dégagé. Là. Tu vois même le bastingage là, tout près de toi, là, à ta gauche.
Yes, sir.
Solomon, tu as eu quoi, 80...
91.
Ben, toi et Kenan, vous allez tenter d'esquiver, de vous mettre au sol, mais vous allez recevoir là, des éclats. Donc, vous allez vous enlever là, chacun un 2 points de dommage. Et si tu veux nous montrer un peu qu'est-ce qui arrive, Solomon, dans cette tentative qui, malheureusement, te laisse quelques blessures et quelques... objets de décoration là, plantés dans ta chair.
Alors que je viens de foutre le feu à Karl, ou enfin, ce qui en reste, à ce moment-là, la porte explose. Moi, je la vois qu'au dernier moment, hein, concentré sur le sort que je viens de faire. Et puis au moment où ce que Karl est propulsé par le souffle, je le suis également. Et... je vais me retrouver de tout mon long quelques mètres plus loin avec Du sang un peu partout et peut-être même une partie de la porte enfoncée dans un bras même. Et puis, c'est ça, je pense pas comment... Il y a le sang qui se répand sur le bastingage, là, et Solomon, là, qui a comme un voile noir qui vient devant ses yeux pendant un bref instant, là, mais qui sortir au fur et à mesure qui reprend ses sens.
Très bien. Et de ton côté, Kenan?
Ben, Kenan, la même chose. Il est complètement happé par le sort qu'il est en train de jeter. Il est concentré sur sa cible. Donc, il va pas du tout se rendre compte que de l'explosion. Il va la voir qu'au dernier moment. Et puis, je pense qu'il va se prendre peut-être quelques débris directement de par le côté, là.
T'es-tu projeté un peu dans la même direction que Solomon?
Je pense, ouais, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, écarté de la cabine, en fait, éloigné de la cabine, non?
Très bien. Fait que je verrais bien une caméra qui est proche du plancher de bois, où on voit vos trois silhouettes, hein, Sage, Kenan et Solomon. Vous êtes au sol et vous redressez là, sur vos coudes, étourdis. Alors que devant vous, vous voyez plus accroupi Ygritte qui est là, qui a esquivé le gros là, du souffle. Et vous voyez ces morceaux, là, on voit des petits foyers d'incendie allumés un peu partout, venir donner projeter des ombres étranges là, dans ce brouillard là, déjà grouillant de vie. Et on voit quelque chose apparaître dans l'embrasure de cette porte. Qui a été défoncé. C'est une ombre gigantesque qui vient obscurcir l'ouverture de ce qui fut la porte. Derrière la haute silhouette qui apparaît, la rumeur de dizaines et de dizaines de voix, un cœur de haine et de tourment, des cris qui ont rien d'humain ou à peine. La silhouette met un pied sur le pont. Qui fait gémir le bois des planches en un craquement plaintif. Environ 7 pieds, soit plus de 2,15 m. Dans une main, une grande... De cette forme humanoïde, hein, ça a vraiment une forme humanoïde. Dans sa main, là, elle tient là, une formidable lance digne de sa stature de colosse. C'est une lance démesurée. Et derrière elle, là, on voit là, apparaître là, des centaines de yeux noirs dans l'ouverture de la porte, qu'on aperçoit malgré la ténèbre, hein, des yeux plus noirs que le noir. Et alors que la silhouette avance dans ce silence tétanisant et le crépitement du feu qui commence à lécher un peu partout le pont, mais derrière elle, ben, les lamentations le géniales le s'élèvent de plus en plus là, en une seule voix rageuse. À la vue de ce qui reste là, comme cendre au sol de Karl, on entend encore une fois le cri de rage folle de Sage. Et sans doute que vous comprenez que la relation entre Sage et Karl dépassait sans doute celle de harponneuse à maître harponneur.
Ils s'harponnaient entre eux?
Ça se pourrait, mais là... Pas de preuves, tout est parti ensemble. On ne peut que présumer. Vous êtes sur le pont couché, hein, Solomon, Sage et Kenan, alors qu'Ygritte, tu te redresses tranquillement et tu vois cette forme là, de 7 pieds là, au-dessus de 2 mètres là, s'estirper de l'ouverture de la porte avec cette formidable lance. Et là, la scène est beaucoup plus éclairée. Là, grâce au feu qui s'allume un peu partout sur le pont, on voit à travers un peu plus le brouillard et ça a quelque chose de rassurant parce qu'il y a de la clarté, mais il y a aussi quelque chose d'inquiétant parce qu'on voit toute l'ampleur de ces horreurs qui bougent dans le brouillard. Et là, on a encore quelque chose d'inconnu derrière cette grande silhouette-là. Que faites-vous, mes héros? Ygritte est encore plus avant. C'est toi qui es la plus proche de cette silhouette-là. Là. Toi, t'as pas glissé, t'as pas été percuté par le souffle. Donc, toi, t'es vraiment là, t'as la cendre de Carl devant toi, puis t'as encore cette silhouette féminine-là, puis la silhouette masculine, mais elle est à terre avec une lance à travers la tête. Et t'as cette femme, là, cette silhouette de femme là, qui est seulement à 2 mètres de toi, qui commence à se redresser elle aussi.
Ben, je vais charger dans le tas, là.
Quel tas?
Dans le tas de cendre à terre.
Je botte. Non, mais le gars ou la porte, là, je me dis que c'est lui le boss, c'est lui qu'il faut...
Il y a sans doute un risque de te faire happer par la silhouette féminine avant, parce qu'il faut que tu la contournes. T'as d'abord cette femme-là qui est devant toi, là, tout près des
bon,
restes
ben,
de cadre.
Je vais commencer par happer celle-là, alors.
Oh, le rhume te rentre dans le corps. Elle est courageuse, Ygritte, elle fonce. Griffe dehors sur cette femme-là. On y va avec un jet pour déterminer vers où va la fiction. Tu as 10, ça va être un jet à 60. Et alors que vous la voyez, on l'a vu bouger un peu comme un premier-né, hein, comme si c'était une créature naissance, on voit que ses gestes sont de plus en plus assurés, comme si elle assumait cette nouvelle chair.
Un autre 90.
Oh, mais que de jet haut! Et catastrophique. Écoute, là, la fiction te frappe dans une escarmouche contre une créature que tu ne connais à peine. Tu as cette possibilité de brûler un état émotionnel pour que ça devienne une réussite partielle.
Oui.
Tu y vas avec ça?
Mm-hmm.
Très bien. Donc là, ce qu'on veut voir, Ygritte, c'était quoi, toi? C'était de la frayeur que tu avais, hein?
C'est ça.
Donc, sans doute, cette frayeur-là, on va la voir dans les yeux d'Ygritte, alors qu'on voit cette forme féminine, là, se dénuder des dents qui lui viennent d'apparaître, et on voit encore ce réseau veineux là, derrière son crâne et tout ça. Et un sourire malsain, là, comme ça, elle profitait de ses premières bouffées d'air dans ce monde. Et tu vas te heurter à elle. Tu voulais la blesser, mais solidement. Mais tu vas réussir à faire la moitié de ce que tu voulais. C'est quoi les dommages de tes griffes, Ygritte?
6.
6? Mais c'est donc bien fort. Écoute, tu vas faire la moitié des dommages. Donc, tu réussis, là, et on veut te voir peut-être un peu en difficulté, peut-être un peu cette frayeur-là qui prend un peu le pas sur Ygritte. Mais quand même, tu réussis à la toucher. Je te laisse aller.
Je pense que en se relevant, Ygritte va diriger son regard vers cette ombre féminine là, va lâcher un cri de comme un cri de guerre là, exemple, aïe, 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 aïe. Il lâche avant de partir à l'assaut. Puis tu dis ah, puis avec ses griffes en sa direction, qu'il y a seulement un de ses bras qui atteignent la cible, mais vu que c'est brumeux, elle passe un peu au travers, puis elle va s'écrapoutir sur le sol à côté.
Oui, puis t'es quand même vif, quand même agile. On a vu cette créature-là tendre les bras vers toi, tenter de t'agripper quand même. T'es passé sous sa garde et... alors que tu t'apprêtais à la pilonner sans doute au ventre plusieurs fois avec tes griffes, mais la façon qu'elle a bougé, le brouillard, le feu, là, il y a même la fumée des flammes qui commence à t'incommoder, on voit tes yeux commencer à rougir, hein, autant qu'on voit de la frayeur dans ces yeux-là, autant qu'on voit que tes yeux commencent à être irrités par la fumée qui se dégage de la combustion du navire. T'as réussi à la toucher une fois. Écoute, on la voit, elle, se contracter, hein, comme se replier sur elle-même sous le choc du coup de griffe. Elle recule de quelques pas et tu vois qu'elle regarde tes griffes et tu vois des griffes commencer à pousser au bout de ses mains. Solomon, tu es sur tes deux coudes et tu as vu Ygritte pousser un cri de guerre. Mais écoute, Ygritte, elle pousse un cri de guerre avant d'entamer un déjeuner. Donc, c'est pas surprenant. Et non, tu vois Ygritte foncer sur cette silhouette féminine. Toi, que fais-tu, Solomon?
Je vais regarder autour de moi s'il y a quelque chose que je peux me servir pour me défendre, parce que je suis toujours main nue. J'ai absolument rien avec moi, étant donné que j'ai été un prisonnier. Est-ce que, par exemple, Carl n'aurait pas laissé tomber son harpon ou quelque chose du genre?
Oui, Carl avait effectivement un harpon. Il va être tout près des pieds d'Ygritte, mais t'as quelque chose de plus près encore. La porte n'était pas faite entièrement de bois. Et là, on voit comme une genre de latte qui doit faire au moins dans les, je te dirais, 40 cm, une latte de fer forgée.
OK.
Qui est... T'as juste à t'étendre le bras, qui devait retenir, là, sans doute que la porte devait être... muni de 3 ou 4 lattes là, de la sorte là, pour tenir les planches.
OK, ben, je vais commencer par agripper la latte en fer près de moi et me relevant, je vais me diriger vers la forme féminine qui grite et est en train d'affronter avec la ferme intention d'y swinguer ça en arrière de la tête.
Tu parles de derrière la tête, donc tu veux la contourner ou tu la prends de front?
Je la prends de front.
Très bien. Écoute, tu te lances dans l'échauffourée. Mm-hmm. Avant qu'on fasse le jet, Kenan, toi, que fais-tu alors que tu es au sol, toi aussi, avec quelques blessures?
Je vais me relever. J'hésite à me relever plus vite, en fait. Vu que je suis encore un peu loin, j'essaie de me relever un peu plus vite pour arriver à atteindre ma cible plus facilement.
Qu'est-ce que tu as en tête, Kenan?
Peut-être d'accélérer le temps. Pour moi.
Tu voudrais déjà être sur cette cible?
J'aimerais être sur la cible, ouais.
Mais tu peux. Il s'agit d'utiliser ton pouvoir sur le temps.
Ouais, mais je sais que c'est mal.
C'est mal, mais... Tu t'accroches beaucoup à la ténèbre depuis un certain temps. Tu le fais dans les relations avec les gens... Alors que tu pourrais tout simplement engager une discussion normale, tu tombes rapidement dans la ténèbre pour les subjuguer. Et alors que ta vie est en danger, n'est-ce pas là un bon réflexe? Un point de focus. Et tu gagnes 10% sur ton action et tu es sur la cible.
Ouais.
Il n'y a pas de jet à tirer.
Pas de jet? J'arrive direct sur lui.
T'arrives sur... Qu'est-ce que tu vises, toi? Est-ce que Kenan est assez fou pour se jeter sur la colossale créature plus loin ou tu vas prêter main forte à Ygritte et Solomon que tu vois lui aussi embarquer dans les chauffourées?
Sur la créature de Solomon et Ygritte, il n'y a plus trop de place. Hein.
Effectivement, il va y avoir circulation. Mais est-ce que tu es assez fou pour te lancer sur cette créature qui fait au-dessus de 2,15 m?
Est-ce que j'ai le choix, en fait? Je ne pense pas.
Est-ce que tu as les coronesses pour le faire? Est-ce que tu as les couilles pour le faire?
Nan va tenter.
Très bien. Écoute, tu lances pas de jet. On va faire tout d'abord le jet de Solomon, alors que Solomon est armé d'une barre de métal et se lance. Verrou va nous amener la fiction. Tu as combien pour utiliser cette barre, Solomon?
Ça va être 9.
9, c'est quand même bien. Si tu vois que c'est un 9 comme ça, strike, le jet se fait à 50%.
62.
62. Est-ce que tu laisses ça comme ça?
Oui.
Tu te lances vers cette créature qui est maintenant munie de griffes, aussi longues, sinon plus, que celle de Ygritte. Dans l'échange... tu peux même réussir à la toucher, mais tu vas voir que tu feras pas vraiment de dommages, mais elle va réussir à te frôler et t'enlever un point de dommage. Je te laisse articuler tout ça, comment ça se met en place.
J'arrive avec ma planche en acier et venant lui frapper la tête, je passe au travers pratiquement et... Découvrant mon flanc, la créature en profite pour entrer ses griffes à l'intérieur. Et probablement les retirer aussi rapidement. Je sens le sang commencer à couler le long de mon flanc jusqu'à ma cuisse. Déjà que j'avais un bras de blessé. Solomon commence à perdre beaucoup de sang.
Mais effectivement, tu es rendu à 3 points de santé de perdu, donc tu es tombé dans la zone des moins 10. Maintenant, toutes les actions que tu vas entreprendre, Solomon, vont être affublées de moins 10. Kenan, j'aimerais entendre murmurer Kenan avant de se projeter à pleine vitesse, hein, accéléré par le temps, sur le colosse.
Vers toi, je traverse la lumière. Son corps va être comme presque téléporté, en fait, puisque on va être comme ralenti autour de lui, et lui il va être en accéléré, donc on va le voir comme se téléporter, arriver à vive allure sur sa cible. Les deux, d'une seconde à l'autre, il va se transformer d'un Kenan qui est à terre et encore dans le pétrin à un Kenan en train de courir avec ses deux cimetières en garde, en fonçant sur sa cible.
Très bien. Écoute, alors que tu te propulses à pleine vitesse vers ce colosse, déjà tu vois ses silhouettes s'estirper de derrière lui. 3, 4, 5. Mais toi, tu es dans ton élan, tu ne peux plus reculer. Alors que tu fonçais vers une seule personne, un géant, oui, mais un unique géant. Maintenant, c'est plusieurs silhouettes de taille humaine, cette fois-ci, mais c'est un groupe. Et je te laisse tirer. Tu as combien avec tes cimetières?
J'ai 8.
8, ce qui n'est pas négligeable. Ton jet se fait à 50%. Mais il y a un plus 10 parce que tu es en accéléré, donc 60.
41.
C'est une réussite partagée. Mais tu as toujours la possibilité de payer un prix, faire un sacrifice pour que ça soit une réussite.
Un prix, ça peut être quoi comme prix?
Je sais pas, mais ça peut être que tu vas donner ton coup, tu vas faire le maximum de dommages, mais peut-être que le cercle va se refermer.
Ouais, je pense que ça peut être ça. Je vais vraiment foncer sur ma cible, sur le géant au milieu vers qui j'allais. Et je vais vraiment mettre tout mon poids et toute ma vitesse sur lui et lui asséner un maximum de dégâts. Mais par contre, ouais, peut-être que tous les autres vont se tourner vers moi et je vais me retrouver piégé.
Est-ce que c'est sur sa jambe que tu t'acharnes? À la grandeur que...
Ben, vu la taille qu'il fait, ouais, j'imagine c'est plutôt ça. Ouais, je vais essayer de comme le mettre à terre, ouais, en lui coupant, en essayant de lui taillader une des jambes.
Surtout que Kenan, c'est pas une personne très robuste, là. Tu fais pas énormément de dégâts, là, avec tes armes.
Non, c'est ça. Ben, c'est vraiment la mouche qui essaie d'attaquer un colosse, quoi.
Très bien. On entend quand même, et là, ça va venir un peu comme vous geler tout le monde. Hein. Vous allez être dans un moment de torpeur, là, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, alors qu'on entend cette créature-là lever ses yeux noirs comme un jet d'encre vers le ciel et crier, là. Et là, aussitôt, Kenan, tu réalises que tu es encerclé. Tu prends conscience de... Tu sais, quand tu cours et tu accélères un peu le temps, là, t'as comme une vision en entonnoir qui fait que tu perds un peu la vision de ton environnement. Et alors que ce cri te ramène, ce cri éructé de rage te ramène à la réalité, tu prends conscience que tu es littéralement encerclé. Ygritte.
Mm-hmm.
Tu as eu le choc de voir cette créature qui te faisait face se munir des mêmes armes que toi. Puis, après un soulagement, en voyant Solomon venir à tes côtés, te prêter main forte, tenter de frapper aussi la créature. Un premier coup qui a touché à la tête, mais le corps n'est pas encore totalement formé. Mais on sent que plus ça va aller, plus les attaques physiques sur ce genre de créature-là vont toucher. Et là, t'as vu un cercle se refermer sur Kenan. Bon, c'est un objet d'irritation, Kenan, dans ta vie pour l'instant, mais tu vois quand même Kenan disparaître parce qu'il y a des silhouettes qui l'entourent. Que fais-tu?
Peut-être en soulagement.
Oui, c'est alors qu'elle s'écrit « Bon, Un de moins, c'est parfait. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est plus vers Solomon que son attention va se tourner pour... il garde toujours en tête son serment, puis là, elle voit qu'il est blessé, qu'il a été attaqué. Je pense que c'est un état émotionnel qui va rentrer... qui va y rentrer dedans, en fait, un peu contrariée, furieuse du fait que, écoute, ils viennent juste de se retrouver. C'est le seul combat qu'ils participent ensemble, puis ils sont déjà à moitié morts, puis sont en train de. Sont en très mauvaise posture, là. Fait qu'elle est très irritée. On pourrait dire qu'elle a du sort de.
C'est drôle. Une drôle d'expression. Ça graphigne, ok, c'est bien.
Non, elle est vraiment pissed off, là. C'est ça. Fait qu'elle va prendre cet état émotionnel-là et.
Là, t'es rendu à deux états émotionnels, hein?
Ben, l'autre, je l'avais pas perdu.
Ouais, mais c'est pas. Quand tu l'utilises, tu l'as utilisé, tu l'as brûlé, mais il reste là encore. Autrement dit, là, dans ta frayeur, ben là, ça rajoute un genre de colère de voir que la situation t'échappe. Là. Pour les pertes des états émotionnels, faut vraiment là, ça prend plus de temps. Hein, c'est de se confier, c'est de ça donner à ses vices, ça donner une activité qui nous fait plaisir, c'est d'évacuer tout simplement. Mais quand on l'utilise en combo pour faire une action comme ça, c'est qu'on l'utilise, mais ça reste encore là.
OK.
Donc, t'es rendu à deux états émotionnels.
Je vais quand même... ouais. Puis, je vais l'utiliser aussi, puis je vais varger...
Moi, j'utiliserai après le jet. Parce que si tu l'utilises avant le jet, Andréane, ça te donne un 10% de plus. Mais tu peux l'utiliser aussi après un mauvais jet pour avoir une réussite partagée. Fait que tu le prends, il est là. Il va être à portée de main si tu fais un mauvais jet.
OK.
Mais là, qu'est-ce que tu fais?
Je m'élance de nouveau vers la créature.
Tu veux mettre fin à cette créature-là? Là.
Ouais.
Et je te rappelle, juste comme ça en passant, t'as d'autres pouvoirs, hein, vitesse et tout ça. Pour l'instant, ton jet est à 60%.
Ouais, mais je peux utiliser les deux en même temps?
Ben oui, pourquoi pas?
Ah, OK, bon, ben je vais utiliser vitesse pour pas qu'elle me voie arriver, puis...
Oui, ben tes griffes durent une scène, ta vitesse va durer un tour.
C'est ça, ça va te permettre de monter.
Pas l'autre.
C'est ça, ça va te permettre de monter à 70. Donc avoir 70 au lieu de 60 pour cette passe d'armes-là.
OK. Parfait.
Donc c'est parti.
Aïe aïe.
Aïe aïe quoi?
C'est un 92, là.
Eh ben vous lancez donc ben haut! Oh!
Pas nous, c'est Miro.
Et Miro.
Est-ce que tu laisses ça comme ça?
Ou
tu prends ton nouveau.
Tu peux prendre ton état.
Ton nouvel état.
Je vais utiliser ça.
OK. Fait que tu vas te ramasser avec une réussite partielle.
Fait que non, ça va être... non. Je veux dire, je vais garder mon échec.
Ah, tu gardes ton échec. Très bien. La fiction te rentre dedans. Et elle te rentre assez fortement dedans. Hein, parce que plus on est proche du sang, et plus ça... Ça frappe fort. On va voir, alors que tu t'apprêtes à sauter sur elle, toute griffe dehors, elle va venir intercepter ton geste. Alors que tu te lances avec tes griffes vers l'avant, elle aussi, beaucoup plus rapide que toi, va plonger tes griffes, mais un peu comme à travers tes griffes. Et là, vous êtes comme pris ensemble, hein, les deux poings serrés un contre l'autre, les griffes entrelacées. Et là, tu vois cette force hein, qui, elle, te pousse. Et ça se fait très, très vite. Là, alors que Solomon est encore peut-être un peu accroupi là, par la douleur à son estomac, son abdomen. Il voit juste les deux hommes s'éloigner. Et elle va te pousser jusqu'au bastingage. Tu vas sentir le bois derrière toi, le bastingage, et tu vas te sentir basculer.
Fait que je tombe par-dessus bord.
Tu vois Tu vois la lune à travers le brouillard, tu vois les étoiles, tu vois le flanc du bateau, tu vois la lune, tu vois le flanc du bateau. Tu fais 3-4 tonneaux et tu sens le froid de la mer. Et t'avales la tasse. Solomon.
Oui, ça va bien, hein?
Oui. Tu as vu ton opposante disparaître avec Ygritte. Tu les as vus.
Avec par-dessus bord.
Oui, elle t'a vu la créature pousser. Elle ne s'est jamais arrêtée. Et là, tu as cette créature-là qui se retient là, de peine et de misère. Là, sur, elle a passé bien près là, de partir avec Ygritte là, jusque dans la flotte. Mais toi, ton feu est animé par la ténèbre. Hein? T'as pris ton grand jeu pour que ce soit un feu accélérant. Donc, même si c'est propulsé hein, à partir de Karl, il s'est étendu un peu et accéléré aussi par le souffle de la porte qui a explosé. Mais ça commence à être salement dangereux. Là, on commence à avoir des murs de flammes ici et là. Et je vous dirais que votre temps en sécurité sur ce pont commence à être compté en moins d'une minute, là.
Yes, et donc, Kenan est en mauvaise posture, entouré d'ennemis. Solomon se souvient du serment qu'il a fait à son père de le guider, de le protéger. Et donc, Solomon, toujours accroupi par la douleur, il va tenter un sort du jamais vu. Le sort du dernier espoir, si on veut. Il va toucher le pont du bateau en bois et va se concentrer et dire tout simplement que le feu qui brûle en moi brûle mes adversaires. Et alors, on va voir rapidement des traînées de feu, hein, des lignes de feu, se diriger chacune vers un adversaire pour se exploser au contact et les transformer en boules de feu. Alors, c'est un sort que je vais utiliser étant donné que je vais loin, hein, je touche plusieurs cibles, j'irai carrément pour un 5 points de focus qui viendrait drainer ce qu'il me reste.
Écoute, je crois que le 5 points de focus, c'est un sort explosif et je crois que le terme est bien approprié ici. Donc, effectivement, tu vas y aller avec le maximum de points de focus que tu es capable de donner et on fera pas de jet. Tu mets ta main au sol, les cibles sont de dos, tu sais, à un jet, il n'y a pas de résistance au niveau physique ou quoi que ce soit, il aurait pu avoir une possibilité d'esquiver, mais leur attention est captée, toute captée par Kenan. Alors, on va voir ces lignes de feu là qui vont s'élancer vers eux. Je te laisse décrire, il y a seulement ce colosse qui va être prémuni de tout ça, qui va peut-être avoir des répercussions de ces flammes explosives, là, mais lui sera pas touché directement parce que faudrait ouais. Vraiment que la ligne de flammes passe entre les jambes de Kenan ou sur Kenan, donc il y a seulement lui qui va être préservé de tout ça.
Parfait. Rappelle-moi donc combien est-ce qu'il y a d'adversaires autour de Kenan?
Écoute, c'est environ ils se sont fermés pour c'est environ 5 adversaires.
Parfait. Écoute, alors que Solomon va dire ses paroles, va toucher le plancher du pont, une ligne va partir de chacun de ses doigts, et des petites lignes de flamme, hein, toutes minces, à peine visibles, et vont se faufiler chacune au pied des 5 adversaires qui se trouvent près de Kenan. Et alors qu'elles vont venir toucher le talon de ces adversaires-là, elles vont exploser en hauteur, transformant ces adversaires-là en boules de feu. Et la lumière, tout d'un coup, qui irradie sur le pont et la chaleur fait en sorte que la créature de 7 pieds est obligée de reculer un bras devant le visage, devant la lumière puis la chaleur. Qui laisse à Kenan le champ libre. Et la prochaine étape pour Solomon, ça va être de suivre le même chemin qu'Ygritte.
Kenan, alors que autour de toi, tu sentais l'étau se refermer, le piège se refermer sur toi, tu vois ces créatures autour de toi là, commencer à s'embraser là, comme une allumette et quasiment imploser de l'intérieur. Et t'as peut-être juste le temps de mettre un genou au sol et tu sens cette chaleur qui vient sans doute faire friser tes cheveux là, tellement c'est intense autour de toi. Et la grande créature, tu ne peux que la deviner hein, en te penchant au sol. Tu vois les jambes du colosse peut-être là, se retirer un peu plus à l'intérieur de la cabine dans un rugissement. Là.
Non, non.
Que fais-tu, Kenan?
On va voir Kenan lever sa tête et les flammes de ses adversaires briller dans ses yeux. Ça va lui donner un élan d'espoir qui va le relever et le pousser à se projeter sur sa cible.
Tu restes sur le colosse?
Je retente de l'attaquer pour lui asséner les derniers coups.
Tu n'es pas le pays qui fait le plus mal, mais
ouais, t'es pas Solomon, hein, sauf toi.
C'est toi qui décides, Kenan. Tu as vu le colosse se pencher un peu hein, pour entrer un peu à l'intérieur pour se protéger des flammes, et toi tu décides de l'attaquer.
Écoute, c'est ça, la voix de la raison me pousserait Kenan à partir, mais là en l'état, il a jamais fait de combat réel avec autant de risques, il est complètement là à l'instant aveuglé par sa soif de l'attaquer et cette folie, donc il va repartir sur le colosse et essayer d'attaquer.
Est-ce que c'est pas le même genre de sentiment qu'on a vu lorsqu'il a été spectateur, témoin du combat de Ygritte dans l'arène? Il était galvanisé, lui qui aime pas tant la violence, mais il s'est laissé transporter par le mouvement d'un vrai combat, lui qui a toujours eu que des entraînements. Et là, cette fois-ci, c'est du vrai combat. Est-ce un peu ce même genre de sentiment qui est en train de te galvaniser?
C'est ça. C'est exactement ça, c'est de voir ce combat qui se rappelle encore, hein, qu'il a profondément.
Finalement, tu as
en lui, il essaye de recréer la même chose.
Finalement, tu as peut-être vraiment du sang de Caraman dans les veines. Peut-être vas-tu comprendre un peu plus ton père pour cet amour de la guerre. Du moins,
peut-être j'irai pas jusqu'à dire que c'est le coup pour la guerre, mais
non, mais on s'enligne dans une direction qui ressemble beaucoup beaucoup à ton père. Ok, vas-y, tu as combien avec tes cimetières? Parce que tu l'attaques au cimetière, j'imagine.
J'ai à nouveau 8. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà touché à la jambe, donc je vais essayer de re-attaquer là où j'ai pu infliger des dégâts.
Très bien.
Voir si j'aggrave sa blessure, en fait.
50 et moins.
Parfait. Mais c'est un 16.
C'est un 16. C'est une réussite. Tu réussis exactement ce que tu veux faire.
Ben, ça va vraiment être ça. Il n'y a pas vraiment, comme tu dis, de stratégie. Ça va juste être réattaquer au même endroit, s'acharner sur le colosse et puis envoyer ses cimetières dans tous les sens pour attaquer un maximum de fois sur l'endroit où il a l'impression qu'il a déjà une petite plaie qui est peut-être en train de s'ouvrir.
Tel un requin, tu te lances sur le sang. Que tu as aperçu. Exactement. Sur cette jambe. Très bien. Et Solomon, que penses-tu, toi, qui a comme offert une porte de sortie à Kenan, de le voir pratiquement disparaître dans l'ouverture de cette porte défoncée?
Ben, tout simplement, oui, je vais voir l'obstination de son père, hein, le même qui, là, 4 ans, arrivait seul devant les portes d'une cité occupée et toute une armée, puis harangué, seul, qui voulait m'affronter. Là, je le revois, là, lui, petit, son père qui m'avait dit qu'il aimait pas la bataille, mais qui maintenant est prêt à aller foncer comme un chien enragé sur un géant de 7 pieds qui est pas humain, puis qui repousserait probablement le plus brave des guerriers, normalement, là.
Très bien.
Donc, je vois son père quand il fait ça. Mais écoute, Solomon est tellement vidé, hein, autant il est blessé, il a utilisé tous ses pouvoirs, tout ce qu'il fait en se dirigeant, trottinant vers le bastingage et crier à Sage et à Kenan de fuir avant de passer par-dessus bord.
Alors que tu cries à Kenan et Sage, tu vois Sage courir en direction de la dernière créature qui était accrochée au bastingage, celle qui a fait valser Ygritte dans la flotte. Ygritte, après avoir goûté la tasse au fond de l'eau, tu retrouves la surface. Et tu prends une bouffée d'air et aussitôt tu te sens agrippé par derrière.
Bon, ça va bien.
Quel est ton réflexe?
Me débattre, là, donner un coup de pied, un coup de poing. Là, en tombant dans l'eau, en fait, ça rafraîchit mes idées, mes griffes, ils ont rentré, là.
Très bien.
Soyons pas...
Ils sont sortis par réflexe, puis elles sont rentrées par réflexe.
Ouais.
Et là, t'entends... Tu sens comme une peau froide venir se coller quasiment à ta joue, là, un peu derrière toi, te dire « restez tranquille, je viens vous aider! »
OK.
Est-ce que tu sais nager?
Il me semble qu'on avait dit oui.
Oui, hein? T'as nagé en rivière et tout ça, traversé des rivières. Il y a peut-être ce mouvement...
Je sais nager, mais si je ne suis pas une grande nageuse, je ferais un kilomètre au crawl.
Ouais, puis sans doute, tu sais, les mouvements de la mer et tout ça, comme tu connais pas la mer, tu vis pas en bord de mer, c'est un genre de premier contact là, pour toi. C'est peut-être plus difficile là, de jauger, de savoir comment te dépatouiller, comment nager dans cette flotte. Et là, tu as reconnu la voix d'Almadès, hein? Le fleuron qui maintenant te prend comme le bras qui passe en dessous de tes deux aisselles, puis tu le vois comme de nager de côté, puis il nage vers la chaloupe.
OK.
Agrippez-vous! Et là, il t'aide à embarquer à l'intérieur de la chaloupe. Et là, lui s'accroche les deux mains, il est toujours dans l'eau. Y a-t-il des survivants?
Je lui indique que oui, il reste trois personnes.
T'sais, Almadès qui a perdu un peu de sa superbe, hein? Il n'a plus son chapeau avec ses plumes et tout ça, là. Il a les cheveux aplatis sur la tête et tout, là. Je ne laisse jamais des dames affronter le danger seul. Et là, tu vois qu'il tente de sourire, mais qu'il grogne. L'eau est excessivement froide. Je suis un champion de natation. Et là, il va tenter de monter à l'intérieur de la chaloupe, mais tu vois, aussitôt qu'il a mis ses mains sur le bord de la chaloupe, tu vois que ses mains sont bleutées. Et là, il est quasiment en chien de fusil, là, quasiment en boule dans le fond de la chaloupe.
Vous allez bien dans mes grites?
Ça pourrait aller mieux.
Et là, il relève la tête. Et là, tu vois, on voit le bateau. Le bateau est devenu comme une barque funéraire. Là. Les flammes sont hautes, là, je te dirais, le 2-3 mètres. À votre vue, à vous, votre point de vue, c'est assez difficile d'imaginer des êtres vivants qui seraient en haut de ce navire-là. Mm. Kenan, tu prends conscience du danger. Là, les flammes, là, c'était des ennemis là, qui t'encerclaient là, quelques secondes plus tôt. Mais là, c'est un mur de flammes, un rideau de flammes qui risque de se refermer sur toi. Et tu prends conscience de ce danger-là. Solomon, toi, tu te dirigeais vers le garde, vers le bastingage?
Oui, exactement. Et Solomon va l'enjamber et plonger en direction de l'eau, les dents serrées, s'attendant à ce que l'eau salée sur ses plaies soit une expérience relativement douloureuse.
Ben, ça va être aseptisé, disons.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il va serrer les dents et va plonger, hein. Finalement remonter à la surface et il va y avoir un côté où est-ce que les griffes avaient pogné le flanc et le bras avait goûté par le souffle d'explosion de la porte, ça va geler, hein, ça va devenir tout engourdi, fait qu'il va nager juste d'un côté en direction de la barque, difficilement, mais il est pas en danger non plus, il est quand même habitué à l'eau froide quand il était en formation, hein. De frères combattants, il avait l'habitude d'aller nager dans les rivières gelées.
Très bien. Alors que on voit ta silhouette comme faire un peu le saut de l'ange, hein, tu passes à côté de Sage qui échange coup pour coup avec la créature, elle à coup de lance, l'autre à coup de griffe. Les deux vont écoper de blessures, mais elle va vite être surclassée à un tel point qu'à un moment donné, on va voir là, d'un coup de griffe, la créature va venir casser la lance en deux. Sage va rester avec les deux morceaux et c'est à ce moment-là qu'on va devoir courir et plonger. Et alors qu'elle était dans une genre de furie, hein, de la perte de, sans doute, ce qu'on suppose être, en guillemets, son amant, Carl, elle va réaliser dans le pétrin dans laquelle, et on voit Sage tourner la tête, regarder ce rideau de flammes. On voit à peine Kenan derrière. Kenan qui est à quelques secondes d'être emprisonné de ses flammes à tout jamais. Sage laisse tomber les deux morceaux de bois et laisse la créature à son sort et plonge dans un saut similaire à toi, Solomon. Alors que toi, tu sors de l'eau, t'entends le plouf de Sage qui entre à l'intérieur des eaux. Kenan, je te le dis, là, t'es à 3-4 secondes de plus avoir d'échappatoire. Que fais-tu? C'est une fournaise qui brûle derrière toi, alors que tu fais encore face au colosse.
Kenan est en train d'essayer de mettre toute sa force possible sur la jambe du colosse, mais je pense que ça n'a quasiment aucun effet. Le colosse s'en rend à peine compte, il est plus happé et focusé sur les flammes que vraiment sur le pauvre Kenan qui est en train d'y taper dessus. Et les flammes qui vont comme recrépiter derrière lui vont arrêter Kenan dans sa folie guerrière. Il va commencer à essayer de se retourner autour de lui pour voir quelle était la situation, parce que jusqu'à maintenant il était complètement omnubilé par la jambe du colosse. Et j'imagine que je vois rien de spécial autour de moi et tout le monde est parti et puis
tu pourrais même pas savoir,
complètement caché, quoi.
C'est en plein ça, et là je te dirais qu'il y a plus trop d'échappatoire. Tu sais que tu vas devoir te frotter à la morsure des flammes pour sortir de là.
Ouais.
Il y a plus de passage. Et ce feu-là n'est pas naturel. Il est alimenté par la ténèbre.
Ok. Je vais repartir sans savoir vraiment où je vais. Je vais en fait juste repartir en arrière là où j'ai laissé mes compagnons juste avant. Je vais repartir dans cette direction. Et puis je vais prendre mon courage à deux mains et ressauter, essayer de sauter par-dessus les flammes.
Tu vas me faire un jet de se mouvoir esquivé. Je te le dis, écoute, ça prend une réussite critique pour sortir de l'indemne. Même un jet de réussite va te laisser des conséquences. C'est vraiment la conséquence de ton acte d'avoir persisté au niveau du combat, d'être piégé. Donc, on veut juste savoir dans quelle direction ça va aller. Tu as combien entre dans la compétence mouvoir esquivé sous agilité?
J'ai 6.
6. Tu vas me faire ton jet à 60%.
65.
Ouf. On va voir Kenan. Justement, étudier ce rideau de flammes, ne pas voir d'échappatoire, choisir le chemin sans doute où les flammes s'élèvent le moins haut, mais t'as pas le choix. Tu cours, peut-être tu ramènes ta tunique, hein, par-dessus tes cheveux, parce que tu pourrais devenir facilement une torche humaine, une belle allumette, et sans doute faire un roulé-boulé pour t'extirper des flammes. Lorsqu'on te voit sortir en culbutant, on voit que ta tunique est en flammes. J'imagine que tu t'en débarrasses rapidement. D'un coup de bras, tu l'envoies voler. On la voit voler un instant, mais les flammes viennent l'alourdir et la, la ramener sur le plancher, on la voit s'embraser, et toi, ben, tu te ramasses avec quelques brûlures sur le dos. Tu vas prendre 2 points de dommage, Kenan. Et alors que tu cherches le bastingage pour sortir, ben, tu vois la deuxième créature, elle a la silhouette féminine qui est en train de batailler un combat perdu contre les flammes. Un genou vient tomber au sol, tu la vois commencer à ramper, et c'est une torche humaine, si on peut dire.
Surtout le bord de l'eau qui est juste à côté de lui, et pris encore dans les flammes, je pense que je vais courir pour plonger dans l'eau.
Ouais, on voit un peu...
Et calmer la douleur.
Effectivement, on voit ces flammes un peu rétrécir hein, dans ta course, mais qui te lèchent encore le dos et tu sens la morsure du feu alors qu'on te voit disparaître et sauter par-dessus le bastingage. C'est sans doute la main de Solomon qui est grimpée sur la chaloupe qui va se tendre à toi, t'aider à remonter. Et la caméra, elle, va rester sur le pont. Alors qu'on a vu ton sauvetage, on voit les yeux. Un gros plan, on zoome sur les yeux du colosse, de cette créature qui est tapie dans l'obscurité avec des dizaines et des dizaines d'autres yeux. L'ancien équipage de la Veuve Blanche, transformé. Et le colosse cligne des yeux quelques instants, considère les flammes qu'on voit se refléter dans la noirceur de ses pupilles. Il inspire profondément comme si il se rappelait d'avoir été jadis un être humain. Et il sort dans les flammes, serrant fortement d'une main la lance gigantesque. Et il marche, traverse le rideau de flammes. Ses pas se font de plus en plus rapides. Une course, celle pour propulser une lance. Et la propulse. Très loin, très loin. Et on la voit, cette lance, à moitié léchée par les flammes, car elle avait commencé à s'enflammer. On voit cette lance de feu, disparaître dans la nuit. Et peut-être même Solomon relever la tête et la voir s'en aller en direction de la marée rouge.
Cool!